Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission d'information et de débat en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Cette semaine, pour, cette dernière ligne droite, on est à quelques heures, quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. On a voulu, prendre le pouls de l'opinion dans un moment relativement important et aussi peut-être avec une part d'inquiétude, puisque, et on en parlera avec notre invité, il semblerait qu'on se dirige vers un second tour entre Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen comme en 2017, avec quand même une donnée qui a changé, c'est que sur un second tour, selon encore les enquêtes d'opinion, évidemment, on en parlera, on prend tout ça avec beaucoup de prudence, mais quand même, ça pèse dans la tête des Français, le risque de voir la candidate de l'extrême droite l'emporter. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Stewart Shaw. Bonjour Stewart.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes directeur opinion politique de chez Via Voice.
Absolument.
Et que vous êtes également, on avait eu le plaisir de vous recevoir, co-auteur de La Fracture avec Frédéric Dabi, dont vous aviez ausculté la jeunesse à travers une série d'enquêtes. La première question que j'ai envie de vous poser, puisque c'est votre métier d'ausculter l'opinion, c'est finalement, est-ce que ce second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, est inéluctable ? Ou est-ce qu'il peut y encore y avoir des surprises ?
Écoutez, si on en croit effectivement les intentions de vote, qu'il faut prendre avec précaution, puisque ce sont des rapports de force politique à un instant T, on sait qu'on est dans la dernière semaine de la campagne, donc on est face à un mouvement de cristallisation des votes qui vont commencer à se faire dans les derniers jours, voire dans les dernières heures. Donc effectivement, je dirais, les choses peuvent un petit peu bouger. Pour autant, c'est vrai que si on en croit aujourd'hui les chiffres, il s'avère que le second tour de l'élection présidentielle verrait consacrer le match retour entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national, mais dans un contexte certainement très différent d'il y a 5 ans. Là, peut-être la seule surprise, le seul élément de surprise qu'il faudra analyser, c'est la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, qui est, il faut le rappeler et le dire, réel sur ces dernières semaines, au regard d'une campagne qui comme en 2017, une fin de campagne qui, comme en 2017, lui fait gagner quelques points dans les intentions de vote. Donc le match retour semble effectivement plutôt se dessiner, mais avec effectivement un Jean-Luc Mélenchon qui est en pleine dynamique et qui peut créer, peut-être pas la surprise qui renverserait la table, mais peut-être un effet de nouveauté par rapport à 2017.
Bref, il pourrait réitérer la performance de 2017 où il avait fini,
Absolument. Absolument. Il pourrait réitérer effectivement cette performance-là, puisqu'il suit à peu près la même dynamique sur les trois, quatre dernières semaines avant le premier tour, sur le dernier mois de campagne, je dirais. Il avait commencé, on se souvient, cette remontée après le croisement des courbes avec Benoît Hamon. Une tendance graduelle et constante jusqu'au soir du premier tour. Je pense qu'il y a deux éléments pour Jean-Luc Mélenchon qui sont essentiels s'il veut réitérer, je dirais, cette performance-là. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il continue à convaincre davantage à gauche, sur l'électorat de gauche, qui, il faut le rappeler, même si ils sont plutôt conscients que les jeux sont un peu faits, ne sont pas tous prêts, encore une fois, à se mettre derrière ce vote efficace, comme l'appelle Jean-Luc Mélenchon, pour parler du vote utile, de voter, de mettre dans l'urne un bulletin Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut qu'il continue à convaincre une partie de l'électorat de gauche qui pour l'instant n'est pas prêt à voter pour lui. Puis le deuxième élément, c'est le niveau d'abstention, on en parlera certainement, puisque Jean-Luc Mélenchon fait des scores en 2017 qui sont très élevés sur des catégories de la population qui traditionnellement votent moins. C'est le cas notamment chez les demandeurs d'emploi où il fait plus de 30%. C'est le cas aussi chez les jeunes, 18-24, hein, où il fait un très très bon score aussi. Et c'est le cas aussi chez les ouvriers, par exemple, puisqu'il fait le deuxième meilleur score juste après Marine Le Pen à 24%. Donc vous voyez, il y a ces deux obstacles, convaincre davantage à gauche et en même temps, je dirais, aller chercher des abstentionnistes aujourd'hui dans des catégories de la population qui semblent bouder un petit peu les urnes.
Alors, malgré effectivement cette dynamique, vous l'avez dit, c'est ce qu'on répète et c'est ce que mesurent vos enquêtes. Il y a aussi une dynamique Marine Le Pen et qui est plus forte que la dynamique Mélenchon, en tout cas pour l'instant, et qui la porte visiblement vers le second tour et même aussi peut-être sur un bien meilleur score que ce qu'elle avait fait au second tour.
Oui, alors pour l'instant, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est dans une, elle aussi, dans une dynamique réelle. C'est une dynamique, je dirais, en parallèle avec Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, quand l'une augmente, l'autre augmente, donc ils se font un peu écran tous les deux. Mais oui, il y a une réelle dynamique sur le mois de mars, hein, sur certaines intentions de vote. Elle passe de 18 aujourd'hui à 23, hein, à peu près. Donc oui, il y a une dynamique qui a été enclenchée. Je pense qu'elle s'est expliquée par deux phénomènes. Le premier, on l'a tous en tête, c'est, je pense vraiment, Éric Zemmour, le paratonnerre Éric Zemmour, qui lui a permis à la fois de recentrer sa position, mais de recentrer aussi son image, dans la mesure où finalement elle apparaît comme la candidate radicale, mais apaisée. Deux raisons face à un candidat Zemmour qui est plutôt perçu comme un candidat indésirable. Et donc, par conséquent, on a le sentiment que le front républicain s'est un petit peu déplacé. Aujourd'hui, faire front républicain, ce n'est pas faire front contre Marine Le Pen, mais faire front contre Éric Zemmour. Étant donné finalement qu'il dégringole dans les sondages, voilà, on a un électorat qui ne perçoit plus vraiment Marine Le Pen comme étant la candidate anti-républicaine, la candidate extrême droite. Et pour le coup, cet effet un peu dédiabolisation a sans doute fonctionné grâce notamment à Éric Zemmour. Et puis, si je me permets de rajouter un dernier élément qui me semble être lié à celui-ci, c'est qu'effectivement, par rapport à 2017, Éric Zemmour lui apporte une réserve de voix qu'elle n'avait pas il y a 5 ans. Et là, si on en croit toujours les intentions de vote de mes différents confrères, on voit bien qu'il y a un report de voix quasi tacite entre les électeurs d'Éric Zemmour et ceux de Marine Le Pen dans le cas d'un second tour Macron-Le Pen. Donc ces deux éléments font qu'effectivement on est sur des scores annoncés un peu plus serrés. Je fais juste une petite parenthèse. Toutefois, si on compare les intentions de vote aujourd'hui au score de 2017, on voit quand même que Marine Le Pen fait à peu près son score de 2017 et que Emmanuel Macron reste encore, malgré une petite et une légère baisse sur le mois de mars, fait encore quand même un meilleur score que son premier tour en 2017 dans les intentions de vote.
Alors évidemment, tout ça sera vérifié dimanche soir, et c'est à prendre avec toutes les réserves habituelles qu'on a sur les sondages. Absolument. Et les enquêtes d'opinion et les mouvements des électeurs qui, par définition, sont parfois difficiles à prévoir. C'est la difficulté de votre métier. Néanmoins, ce qui aujourd'hui, je dirais, semble perturber un petit peu beaucoup d'électeurs, c'est qu'effectivement, on a eu une campagne qui a été relativement tronquée. Un candidat sortant qui s'est présenté extrêmement tard, des événements internationaux, la crise sanitaire qui sont venus perturber le déroulement de cette campagne. Et finalement, on a l'impression que ça a renforcé le poids des enquêtes d'opinion, et aujourd'hui on voit bien que ces enquêtes d'opinion, bien, elles servent à alimenter des appels au vote utile ou des appels à mobiliser, parce que effectivement, vous l'avez dit, ce qui menace tous les candidats finalement, c'est l'abstention qui peut réellement transformer le destin des uns et des autres.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une campagne qui est frappée par le caractère inédit du moment. Elle est frappée d'abord par un drame aux frontières de l'Europe, qui est la guerre en Ukraine. On a effectivement une population, une opinion publique qui est assez d'accord, en tout cas dans sa majorité, avec l'idée selon laquelle on n'a pas eu une réelle campagne présidentielle aujourd'hui. Je pense qu'il y aura des conséquences à cela, hein, une forme peut-être d'amertume, d'insatisfaction qui pourrait être générée par cette frustration, effectivement, par cette non-campagne. Vous avez raison de rappeler aussi que oui, on est sur des intentions de vote, donc encore une fois, il faut prendre tout cela avec beaucoup de précautions. Ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques et les tendances, hein, pas forcément les scores en tant que tels, même si ça donne une information intéressante. Et c'est vrai que par rapport à 2017, ce que je trouve assez saisissant pour le coup, c'est on a cessé finalement de dire que tout était joué d'avance finalement dans cette campagne, et on se rend compte que dans cette fin de campagne, il y a des incertitudes qui demeurent. On parle à juste titre, hein, du score de Marine Le Pen, hein, avec un écart beaucoup moins important au second tour, mais on parle aussi du premier tour, c'est-à-dire qui va être sur le podium et quels vont être après les reports de voix des uns et des autres. Et puis élément central, évidemment, quel sera le taux d'abstention, puisque je pense que là aussi c'est le caractère un peu inédit de cette campagne présidentielle. On a très longtemps, avec différents confrères depuis très longtemps, alerté sur le signe faible d'une participation moins importante, bien qu'elle sera, je dirais, largement majoritaire, hein, par rapport aux autres élections. Mais on peut et on risque, et là encore une fois c'est quelque chose qui sera peut-être inédit, on risque de dépasser ce score et ce taux d'abstention un peu record qu'on s'était collectivement promis de ne jamais dépasser, c'est-à-dire le premier tour de 2002 qui avait connu une abstention assez importante. Donc voilà, je pense qu'il y a des éléments qui montrent que oui, on est sur une campagne qui est assez singulière et d'une certaine façon aussi parfois un peu insaisissable.
Alors, ça sera ma dernière question, parce que c'était quand même aussi une des interrogations sur lesquelles je souhaitais vous entendre. Bon, si on part du principe que les enquêtes d'opinion sont relativement fiables à quelques jours du vote et qu'on s'oriente vers un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a des enquêtes qui sont faites sur le second tour hypothétique. Et là, à la surprise de certains, on a un resserrement des écarts avec un des sondages qui donne 51,5, 48,5. Autant dire, ça peut être l'inverse. Donc, est-ce que ça veut dire que réellement, il va y avoir une sorte de tout sauf Marine Le Pen d'un côté contre un tout sauf Macron de l'autre, et que finalement, il y a quand même une possibilité pour Marine Le Pen de l'emporter dans ce scénario?
Écoutez, tout est envisageable et tout est possible, hein. Je ne suis que qu'analyste par rapport à des données que nous créons et que nous observons là aujourd'hui à l'aide de nos études. Donc évidemment que toutes les éventualités doivent être présentées. Ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites, c'est que oui, il y a un second tour qui semble plus resserré, et ça, je pense que cette dynamique, elle est réelle. C'est une dynamique d'opinion qui, à mon sens, révèle et exprime une réalité politique de notre pays. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on le voit finalement pointé depuis un certain nombre d'années, hein, une émergence d'une extrême droite assez forte. Ça c'est un point. Pour autant, je nuancerai un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, ces intentions de vote de second tour, il faut les prendre avec beaucoup plus de précautions même que les intentions du premier tour, étant donné qu'on sait très bien qu'au lendemain du premier tour,
c'est une nouvelle élection qui redémarre.
Exactement, une nouvelle campagne redémarre, une nouvelle élection redémarre avec des reports de voix qui sont pour l'instant pas totalement figés et qui vont dépendre de cette campagne de second tour, et de cette manière-là, est-ce qu'effectivement il y aura, et vous avez raison, deux blocs qui s'opposent, hein, un tout sauf Le Pen versus un tout sauf Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va continuer à jouer le tout sauf Le Pen qui avait fonctionné en 2017, ou est-ce qu'il va comprendre peut-être que c'est moins facile aujourd'hui de jouer sur cette position-là. Et est-ce que de son côté, Marine Le Pen va jouer effectivement ce référendum contre ou pour Macron? Ça, c'est des choses qui vont être décisives sur les deux dernières semaines de campagne.
Et ça sera l'objet, évidemment, au soir du premier tour. C'est une nouvelle campagne qui redémarre. Et évidemment, les résultats créeront de fait une nouvelle situation politique. Peut-être celle qui est annoncée, peut-être une surprise ou pas. On verra, c'est tout le sel de ce scrutin qui, évidemment, va avoir lieu dans quelques jours. Et on souhaitait effectivement pouvoir vous interroger, Stewart Shaw, parce que vous êtes un spécialiste de l'opinion, et on sait que aujourd'hui, eh bien, une grande partie de l'élection tourne autour aussi. Certains d'ailleurs l'ont regretté, l'ont déploré, mais tant que la législation permet de faire des sondages jusqu'à la veille du scrutin, c'est pas le cas dans tous les pays. Eh bien, absolument, ma foi, vous faites votre métier, vous auscultez l'opinion et vous essayez, eh bien, d'analyser les tendances. On vous remercie. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'opinion chez Via Voice et que on a eu le plaisir de vous recevoir dans cette première partie de l'émission, et que évidemment on espère avoir d'autres occasions de vous entendre sur ce sujet ou sur un autre. Merci, Stewart. À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Votre émission de débat et d'information avec notre partenaire, la revue politique et parlementaire. Et on a le plaisir d'accueillir pour cette deuxième partie d'émission Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous Alexis.
Alors avec notre premier invité, Stewart Shaw, qui est spécialiste de l'opinion chez Via Voice, on a souhaité un petit peu ausculter l'opinion à la veille de ce premier tour. Et la première question qu'on s'est posée, et je vous la pose à votre tour, est-ce que, compte tenu de ce qu'on sait des enquêtes d'opinion et de la campagne, même si, bon, c'est une campagne un petit peu particulière, on va dire, une campagne sans campagne, si je puis dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui, de manière pratiquement inéluctable, un second tour promis entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?
Alors oui, au vu des dernières intentions de vote telles qu'elles sont aujourd'hui scrutées par les sondeurs, mais je dirais à deux réserves près. La première qui est liée au niveau de participation, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce qu'il y a de plus difficile pour les instituts de sondage, ça constitue souvent un angle de mort pour eux, et on l'a vu encore aux dernières élections régionales, c'est d'être capable de faire des projections avec une évaluation de la participation qui soit aussi proche de la réalité que celle qu'elle sera au soir du vote. Donc ça, il y a quand même un sujet qui reste entier, et on a vu là aussi que, ben, en fonction du niveau de participation, les projections peuvent être profondément modifiées par le niveau d'abstention ou pas. Donc ça, c'est important. Deuxième aspect, c'est que il y a quelque chose qui est, me semble-t-il, assez important qu'il faut prendre en compte dans cette élection, qui a déjà été mesurée lors d'autres élections, c'est que le pourcentage d'indécision est fort parmi les gens qui disent qu'ils vont voter. On a à peu près aujourd'hui un tiers, hein, 30%, entre 30%, entre 28 et 32%, qui nous disent qu'ils ne sont pas encore sûrs et certains de leur choix. Donc, si vous voulez, vous avez là deux variables, à la fois la participation de l'autre, la question de l'engagement du choix, qui peuvent en effet modifier les projections et qui constituent un vrai facteur d'incertitude. Par contre, si on en reste en effet à regarder de près les intentions de vote et les dynamiques électorales, clairement aujourd'hui ce qui apparaît, c'est qu'il y a deux candidats qui semblent se dégager. C'est d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen. Il y a plutôt une petite dynamique aujourd'hui en sa faveur depuis quelques jours, ainsi que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon de son côté aussi. Et ce qui est important, le dernier point, c'est que disons les offres électorales qui ont aujourd'hui le taux d'engagement le plus certain, ce sont d'un côté, en effet, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce qui vient conforter plutôt cette hypothèse.
Alors, on s'est interrogé aussi sur un autre phénomène, c'est finalement une forme de banalisation de l'installation dans un second tour d'un candidat, alors souvent de droite ou de gauche. Bon, là, avec Emmanuel Macron, c'est un petit peu à la fois de droite et de gauche, mais face à une candidate ou un candidat, si on remonte au 21 avril 2002, issu de l'extrême droite. On en serait, si les enquêtes d'opinion voient juste, à une troisième qualification pour un second tour de l'élection présidentielle, une deuxième pour Marine Le Pen, après celle de 2017, et puis, il y avait eu, on se rappelle tous, le 21 avril 2002, donc quand même une forme de banalisation de ces candidatures, et donc finalement du patrimoine idéologique qui va avec.
Alors la réalité, c'est que, si vous voulez, ce à quoi nous assistons d'abord, c'est que le champ politique tel qu'il a été d'une certaine manière reconfiguré depuis 2017 n'a pas retrouvé une véritable stabilité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce à quoi nous avons assisté durant cette campagne, et c'est ce qui renforce finalement cette banalisation dont vous parlez, c'est le surgissement sur la droite du Rassemblement national d'une candidature, celle d'Éric Zemmour, qui a fait de la question identitaire la matrice de son projet politique et qui a, d'une certaine manière, contribué à renforcer cette banalisation d'une candidate, Marine Le Pen, qui depuis de nombreuses années essaye de dédiaboliser l'offre politique qui est la sienne, et qui jusqu'à présent n'y était pas arrivée. Est-elle en train d'y arriver aujourd'hui? C'est une question que l'on peut légitimement se poser, dans la mesure où, en regardant là aussi encore une fois les projections électorales, on se rend compte que finalement, le second tour aujourd'hui, tel qu'il est en tout cas projeté par un certain nombre d'instituts de sondage, à l'heure où on parle, montre que on a une candidate qui est rentrée, disons, dans un écart qui relève quasiment de la marge d'erreur. Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, qu'on le réprouve ou pas, la réalité, c'est que elle est devenue électoralement une force politique et considérée comme une force politique par une grande partie, en tout cas, des électrices et des électeurs qui s'inscrivaient dans le champ républicain, puisque le mécanisme qui consistait finalement à faire opérer un front républicain n'a plus la même efficacité, n'aurait plus la même efficacité que l'efficacité qu'il a pu avoir, par exemple, comme vous l'avez rappelé, le 21 avril de 2002, ou même, à la limite, lors des élections d'il y a 5 ans, en 2017. Donc, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème de Marine Le Pen, sur un plan, j'allais dire, de communication politique et d'image, c'est pas tant la diabolisation, sujet qu'elle semble avoir d'une certaine manière réussi à contenir pour une part, je dis bien contenir pour une part parce qu'on va voir après ce qui va se passer, mais c'est plutôt la crédibilisation, la crédibilité. Est-elle perçue comme crédible pour occuper, disons, la fonction présidentielle? On avait vu que le débat, notamment de 2017, avait profondément fragiliser cette aspiration à une crédibilité, à occuper la fonction présidentielle. Est-elle en train de rattraper ce retard aujourd'hui suite à une campagne qui est une campagne finalement, comme vous l'avez dit, qui est presque une non-campagne, où il y a une forme d'invisibilisation presque de la campagne présidentielle? Est-ce que cette invisibilisation de la campagne présidentielle lui a permis d'une certaine manière de renforcer sa crédibilité en termes d'image? C'est une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas forcément la réponse, mais ce qu'on peut considérer en tout cas, c'est qu'elle s'est recentrée du fait de l'existence d'Éric Zemmour et qu'elle s'est banalisée du fait que peut-être, justement, on n'a pas une vraie campagne électorale.
Alors le sentiment...
Ou une campagne électorale sur un faux rythme, si je puis dire.
Le sentiment aussi qu'on peut avoir, c'est que finalement, Éric Zemmour sert un peu de paratonnerre, puisque on l'a vu notamment sur la question de l'Ukraine, alors que les positions de départ vis-à-vis de la Russie, la complaisance, le refus de croire que la Russie pouvait envahir l'Ukraine, et puis les prises de position antérieures qui se, je dirais, qui étaient fortement connotées et favorables à Vladimir Poutine, ont semble-t-il fragilisé la candidature d'Éric Zemmour, et alors qu'au contraire celle de Marine Le Pen connaît, vous l'avez dit, une nouvelle dynamique et semble aujourd'hui à l'écart des polémiques et que même les positions les plus controversées aujourd'hui, eh bien, on en fait grief à l'un et moins à l'autre.
Alors peut-être, parce que le fait est que, si vous voulez, moi je crois que ce qui est important aussi, c'est que quand on regarde là aussi de près les évolutions de l'opinion publique, c'est qu'il y a 15 jours, 3 semaines, en effet, le conflit ukrainien était, enfin la guerre en Ukraine était une guerre qui a influé, à un moment donné, sur l'opinion. Immédiatement, d'ailleurs, il y a eu ce fameux effet drapeau qui s'est depuis estompé autour du président de la République. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet ukrainien est devenu, un certain nombre d'études le montrent, un sujet est devenu un deuxième ou un troisième sujet. C'est plus un sujet essentiel, il est passé au second plan. Ce qui est passé au premier plan, ce qui est déjà au premier plan depuis un certain temps, et c'est là où il y a une grande habileté malgré tout de la candidate du Rassemblement National, c'est la question du pouvoir d'achat, thématique qu'elle a préemptée d'une certaine manière dès l'automne, au moment où lui, Éric Zemmour, faisait, disons, campagne sur les thématiques classiques de l'extrême droite, notamment, encore une fois, la question de l'identité, de l'immigration, etc., etc. Donc, elle n'ayant pas eu... Elle a considéré récemment qu'elle n'avait pas besoin de le faire, parce que, tout simplement, elle avait déjà une antériorité historique sur ce sujet, et que personne ne contesterait, mis à part, en effet, les partisans d'Éric Zemmour et les militants qui sont autour d'Éric Zemmour, le fait que aujourd'hui, elle aurait éventuellement renoncé par rapport, elle aurait fait preuve d'une forme de renoncement par rapport à ses fondamentaux. Mais elle a, en tout cas, avec une forme d'habileté, je veux dire, compris que l'une des thématiques qui serait une des thématiques essentielles de cette élection présidentielle, il y a toujours, lors d'une élection présidentielle, c'est bien une thématique à un moment donné qui va polariser, disons, l'opinion publique, ça serait la question du pouvoir d'achat. Et l'un des effets d'ailleurs de la guerre en Ukraine, c'est de
renforcer cette thématique.
Réactiver le problème de l'inflation, qui est un problème quand même essentiel aujourd'hui pour les ménages et pour les budgets des plus modestes.
Alors, on le voit aujourd'hui, il y a effectivement un scénario, on va dire, central qui pèse. Et depuis quelques jours déjà sur le résultat de l'élection présidentielle, puisque on annonce effectivement que le président de la République était parti très haut dans les intentions de vote diminuent, et Marine Le Pen à l'inverse semble connaître aussi une embellie sondagière depuis quelques jours. Si toutefois ce scénario se concrétise, à quoi faut-il s'attendre pour le second tour, sachant, et c'est ce que nous rappelait Stewart Shaw, que les enquêtes d'opinion sur l'hypothèse du second tour ont peu de sens, parce que en réalité, au soir du dimanche soir, à 20h, les résultats connus et les deux candidats connus au second tour, c'est une nouvelle élection qui démarre.
Alors c'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce qu'en effet, on remet les compteurs à zéro. C'est pas tout à fait vrai parce que le résultat du premier tour finalement impacte sur ce qui va passer au second tour. Moi, ce qui est frappant, si vous voulez, par rapport à 2017, c'est que vous avez, à mon avis, trois choses qui sont profondément différentes de celles de 2017. Je ne suis plus sûr du tout que l'hypothèse du Front républicain soit une hypothèse qui soit véritablement attractive pour une grande partie de l'opinion publique, c'est-à-dire que le réflexe de peur que suscitait l'accession de Marine Le Pen au pouvoir en 2017 et a fortiori celui de son père en 2002, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. D'ailleurs, quand on regarde encore une fois les hypothèses de ce groupe, même si je conçois qu'elles ne sont pas totalement, pertinentes pour l'instant, à partir du moment où le premier tour n'a pas eu lieu, mais enfin, elles montrent que ça ne paraît pas évident. Deuxièmement, vous avez un deuxième facteur, c'est les questions des réserves de voix. C'est-à-dire que quand vous regardez les réserves de voix, finalement, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas tant que ça de réserve de voix. Marine Le Pen, elle bénéficie au moins des réserves de voix de l'électorat d'Éric Zemmour, dont on peut penser que majoritairement il pourra se porter sur la candidate du Rassemblement National. Du côté de chez Emmanuel Macron, si vous laissez de côté l'électorat de Mélenchon qui va se partager vraisemblablement, ou qui va s'abstenir, il reste d'une certaine manière des réserves de voix du côté des écologistes, vraisemblablement, 5-6%, voire 7% plus, on verra. Du côté du Parti Socialiste, mais avec un Parti Socialiste qui est très faible. Du côté du Parti Communiste, rien n'est moins sûr à ce stade. Et après, vraisemblablement, peut-être du côté de Valérie Pécresse. Et encore, pas tout du côté de Valérie Pécresse. Donc, si vous voulez, par rapport à 2017, la question des réserves de voix est beaucoup plus équilibrée qu'elle ne l'était, en effet, il y a 5 ans. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, qui, évidemment, change considérablement la trône, c'est qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, il est sortant. Il est finalement un président qui a un bilan, un président qui quand même a suscité parfois un certain nombre, disons, d'allergies dans un certain nombre de segments de l'opinion publique. Donc il n'est pas à l'abri, ce qui est passé, d'un réflexe anti-Macron au second tour. Donc si vous voulez, on est quand même dans une perspective qui, si l'hypothèse telle qu'elle est bâtie par les instituts de sondage était confirmée, rend beaucoup plus difficile vraisemblablement la réélection d'Emmanuel Macron, même si à ce stade il reste encore favori, mais disons qu'il y a aujourd'hui une fenêtre.
La marge est étroite
au regard, si vous voulez, si on fait une analyse un peu granulaire des réserves de voix, en tout cas elle est étroite. Mais là aussi, ce qui va dépendre, ça va dépendre de la participation, on verra ça dès le premier tour.
Bien, merci Arnaud Benedetti pour avoir partagé vos analyses avec nous aujourd'hui dans l'émission « Et si on en parlait ?». Effectivement, on est maintenant à quelques heures, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle et on souhaitait, avant justement la soirée électorale et la campagne du second tour, essayer d'avoir une analyse de la situation politique et puis effectivement les scénarios qui sont pressentis, surtout pour le premier tour, parce qu'évidemment, comme ça a été dit, même si évidemment le premier tour indiquera un certain nombre de tendances, il restera quand même, rappelons-le, 15 jours de campagne, et en 15 jours, il peut quand même se passer un certain nombre de choses, et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, je rappelle
Merci
que vous
beaucoup,
êtes
Alexis.
Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. À très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.